À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Jean-Claude Bresse, que j'ai croisé, il est vrai, à maintes reprises dans ma vie. Et puis, j'avais vraiment une très grande envie aujourd'hui de lui poser quelques questions au sujet du thème de notre émission. Donc, merci la vie. Jean-Claude Bresse, je vous laisse la parole.
Alors, il se trouve que j'ai écouté votre précédente émission, celle de Monsieur Christian Brunier, directeur des services industriels de Genève, et je dois dire que j'ai été très impressionné par la clarté, la pertinence du propos. Et comme il traitait en particulier d'écologie, de politique genevoise dans ce domaine, de problématiques sociétales, d'actions citoyennes, etc., j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que j'aurai, je crois, rien à dire de plus, ni de moins d'ailleurs. J'ai vraiment aimé tout ce qu'il a dit, et je saurais certainement pas le dire mieux que lui. Alors les thèmes que moi je souhaitais aborder face à c'est une exclamation, quoi, merci la vie, mais ils seront bien différents. J'aimerais parler d'amour, de vol, alors pas dans les magasins, bon, du vol dans les airs, hein, d'éducation, de chance et de passion. C'est un peu les thèmes qui me sont venus à l'esprit quand je me suis posé cette question. Mais je souhaiterais commencer peut-être en apportant une toute petite nuance à ces quelques mots, merci la vie. J'ai plutôt envie de dire merci ma vie, et je m'en expliquerai. Parce qu'en fait, pour parler d'amour, Albert Jacquard lui disait « je parle jamais d'amour parce que c'est un gros mot, et j'aime pas dire des gros mots ». Alors il disait « trop gros pour l'appréhender dans toutes ses acceptions ». Bon, c'est vrai que le mot « amour », ça peut couvrir protection, accueil, partage, soutien, empathie, que sais-je, bien d'autres encore. Mais moi, après avoir dit ça, moi, j'ai pas peur de parler d'amour. Alors, juste une petite traversée de ce que j'ai vécu. Je suis né à Montélimar, en France, donc en octobre 45. Donc, j'arrivais dans un environnement qui était de nouveau en paix, la guerre était finie, en tous les cas ici, dans nos pays en Europe. Et mes parents étaient tous les deux pasteurs. Ils se sont rencontrés ici à Genève au cours de leurs études de théologie. Ils étaient d'origine du sud de la France. Et c'est là que mon père a pris ses premières paroisses. Puis peu après ma naissance, ils ont quitté le Midi, ils sont venus s'installer à Chambéry, en Savoie. Et là, tout petit, j'ai découvert une atmosphère familiale, chaleureuse, avec des parents, j'avais deux frères, une sœur, et puis une maison où vraiment je pense qu'il régnait ce qu'on peut appeler de l'amour. Mon père avait participé à la création d'un mouvement qui s'appelait le mouvement d'entraide aux détenus libérés. C'est des gens donc qui sortaient de prison. Mmh. Et à table, on était souvent assez nombreux. C'est-à-dire qu'il y avait très souvent un détenu, généralement qu'un seul. Mais par contre, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des personnes susceptibles d'apporter leur aide, donc des gens un peu de milieux sociaux aisés, etc. Et puis, comme mon père gagnait très très peu d'argent, parce que les salaires d'un pasteur, après la guerre en France, en tous les cas, étaient très très petits, ma mère avait toujours des jeunes pensionnaires à la maison, de nationalités différentes, qui venaient pour apprendre le français. Et ma mère disait, c'est pour faire bouillir ma marmite, selon son expression. J'aimais beaucoup cette expression. Donc, c'était de l'ouverture, quoi. Et dès l'entrée, alors, à l'école en France, à Chambéry, donc à moins de 4 ans, en fait, j'ai compris qu'il y avait un lieu chaleureux, vivant, gai, ouvert, passionnant, la maison. Mmh. Et puis, un lieu que j'appellerais un lieu de non-vie, l'école. Un lieu où on cultive la compétition, la discipline imposée, des discriminations, des punitions, des choses comme ça. Ah, j'ai fermé les écoutilles complets, les oreilles, les yeux, et puis l'accès au cerveau aussi, pareil. Hein, donc vraiment, c'était. Alors j'ai développé des stratégies pour pas être embêté, des stratégies d'évitement, une sorte de docilité, d'attention. D'attention apparente.
Docilité ?
Docilité, oui.
C'est un mot que je ne connais pas.
Oui, mais j'ai été obligé de le faire. Hein. J'étais face à des enseignants qui avaient besoin, eux, d'être rassurés, qu'on les écoute, on exécute leurs ordres. Donc, je passais inaperçu. Hein. Mais en fait, mes intérêts, ma vie, tout était en dehors, avant et après l'école. Et c'était largement suffisant, passionnant, inépuisable. Ça a été pour moi une période, je pense, que je caractériserais justement par l'amour et la bienveillance de la part de ma famille, de mes parents. Une période de bonheur. Et je me dis que ben ça, c'est un premier message que j'ai envie de faire passer. Celles et ceux qui ont eu la chance de connaître leur début, enfin, au commencement de leur vie, d'être entourés d'amour, de respect, eh ben, qu'ils n'oublient surtout pas le capital immense dont on leur a fait cadeau. Voilà. Puis j'avais dit que je parlerais de passion. Première passion, elle part d'un rêve d'enfant. Presque toutes les nuits, réellement, vraiment, presque toutes les nuits, je rêvais que mon petit lit, c'était un petit lit à barreaux, de tout petit enfant, se soulevait dans la chambre, la fenêtre de la chambre s'ouvrait, et moi, si j'avançais en tenant les barres de la tête de lit, j'avançais dans mon lit, on me mettait à droite ou à gauche, je pouvais le piloter, il montait, il passait à travers la fenêtre, et je m'envolais au-dessus de Chambéry, et je visitais un peu toute la région.
Donc là, c'est donc Jean-Claude Bresse qui va nous démontrer comment il plane la nuit et peut-être même le jour.
Et oui, justement. Et alors, effectivement, ben, je revenais au bout d'un moment, me reposer dans ma chambre après un voyage aérien remarquable. J'avais vraiment tellement envie de voler moi-même, mais je savais que j'aurais jamais les moyens financiers de m'offrir une école de pilotage. Eh bien, beaucoup plus tard, vers 17 ans, j'ai découvert qu'on pouvait faire du parachutisme pour très peu cher. Pour les jeunes, à cette époque, il y avait des bourses d'État, payées, je pense, par l'armée, si je me souviens bien. Mais on n'avait pas besoin de s'engager ou quoi que ce soit. Et on pouvait vraiment s'envoler à peu de frais, quoi. Alors, un petit peu avec la boule au ventre, hein, quand même, parce que la première fois qu'on s'envole, quand on sait qu'on va devoir quitter l'avion en route, ben, il reste une petite appréhension qu'on doit dépasser. Mais enfin, j'étais enfin en l'air pour de vrai. Alors très vite, une fois ben, dans le milieu, j'ai découvert qu'il existait des moyens également pour l'avion, de faire un parcours à assez peu de frais avec des bourses d'État. Je me suis inscrit à l'aéroclub de Savoie, j'ai fait mon brevet de pilote privé d'avion, puis je me suis intéressé aux planeurs et j'ai fait mon brevet d'hélicoptère. Et surtout, j'ai découvert à ses tout premiers balbutiements le vol en delta. Alors, c'était ces balbutiements en France. J'ai créé une école de vol libre et j'ai enseigné le vol pendant 10 ans. Ce que les gens appelaient à l'époque le deltaplane. J'ai eu la chance et le bonheur d'expérimenter tous les types d'engins volants identifiés atmosphériques au cours de ma vie. Pas la fusée, pas le satellite, hein, je ne suis pas allé dans l'espace, mais tous les autres, oui, réellement. Mais je peux vraiment témoigner, comme toutes celles et tous ceux qui ont pratiqué le delta, que c'est le seul et l'unique engin volant qui réalise totalement le rêve de l'homme de voler. Il n'y a pas de moteur, pas de gouverne, le corps du pilote il est quasiment au centre de gravité de l'appareil, et la sensation elle est inoubliable, incomparable. Ce qui n'enlève rien aux autres aéronefs, aux autres façons de voler. Voler, ça reste de toute façon merveilleux, mais voler en delta, c'est ça. Et puis alors en plus, j'ai eu une autre chance, c'est que bonheur de partager toutes ces activités aériennes avec celle que j'ai rencontrée quand on avait 18 ans, ben, ma femme, Olive, avec qui on atteint bientôt ben, nos 53 ans de vie commune. Et on a partagé toutes ses passions, elle aussi était pilote avion et pilote de Delta. Et c'est un superbe cadeau d'avoir des passions, mais c'est encore un plus grand cadeau de pouvoir les partager. Et puis, ben, parlant encore de passion, ben, y a une autre passion qui est née chez moi, mais alors vraiment très très différente. Rien à voir, ni quant à l'origine du rêve, ni quant à la façon dont ça s'est passé. Après une dizaine d'années d'école, donc, hein, en tant qu'élève, qui n'ont fait que confirmer que ce n'était pas un lieu approprié pour des natures comme la mienne, à l'âge de 14 ans, donc là, j'ai battu M. Brunier, hein, qui, je crois, a quitté l'école à 16 ans.
Oui.
Alors moi, c'est à 14 ans que j'ai quitté l'école. Et face à une boutade d'assez mauvais goût, il faut le dire. Mais enfin, bon, c'était pas si grave que ça. Mais je suis parti en pleine journée de classe. Une boutade de mon proviseur, en fait. Ça s'appelait, je crois, le proviseur à l'époque dans ses collèges. C'était un collège en Allemagne. J'ai quitté la classe, je suis rentré à la maison. Et j'ai dit que je n'y remettrais jamais les pieds.
Alors, Jean-Claude Bresse, je me rends compte qu'il y a un lien entre ce que vous m'avez dit, votre première passion tout à l'heure, et celle dont vous commencez de parler maintenant, c'est que Jean-Claude Bresse ne manque pas d'air.
Ah oui, ça, ce jour-là, mes parents ont trouvé ça, que je manquais effectivement pas d'air parce que j'avais une détermination absolument sans faille. Ils ont été obligés de m'inscrire au Centre National d'Enseignement à Distance parce que vraiment, je refusais carrément de retourner à l'école. Ça a été non négociable. Et puis, ma mère a préparé mon bac. Oui. Elle a beaucoup travaillé. Malheureusement, c'est moi qui ai dû aller le présenter. Donc, je lui ai raté son bac à ma pauvre maman. Mais enfin, voilà, l'expérience du lycée de Chambéry et du collège français en Allemagne, où j'ai stoppé définitivement ma carrière d'élève, ont fait naître chez moi un profond rejet de ce qu'on appelle habituellement l'école traditionnelle, et ont en plus certainement été à l'origine de ma seconde passion, l'enseignement, l'éducation. Une passion qui s'est jamais éteinte, et peut-être parce qu'il y avait un peu de rage en arrière-plan. Mais bon, ensuite j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. J'avais dit que je parlerais de la chance aussi, et au tout début de notre mariage, on était ici installés à Genève avec ma femme, Olive. Elle avait trouvé un travail de secrétariat d'accueil dans une école privée, l'école Moser. Au contact des enfants, elle s'est aperçue que le métier d'enseignant, ça lui conviendrait certainement. Elle s'est orientée vers des études pédagogiques. Et avant son départ de l'école Moser, M. Henri Moser, donc le directeur de l'école à cette époque-là, qu'elle avait bien apprécié, lui a demandé si elle connaîtrait une personne capable de gérer une classe d'élèves de 10 à 11 ans, fin de primaire. Et Olive m'avait vu me comporter vis-à-vis de mes neveux, de mes nièces, de mes amis. Elle était convaincue que j'étais capable d'enseigner. Et comme je m'ennuyais, mais à mourir dans un travail de bureau, elle a eu le culot de me proposer à M. Moser. Alors, M. Henri Moser, j'aimerais en dire là un mot tout particulier. C'est une personne tout à fait exceptionnelle. Un pédagogue remarquable, une personne d'une grande générosité, d'une autorité naturelle étonnante. Et il est de ces personnes qui forcent le respect, oui. Moi, je lui voue vraiment une très grande admiration et je lui suis extrêmement reconnaissant. Il m'a engagé comme instituteur de 6e primaire dans son école. Il a obtenu pour moi une autorisation de Berne d'enseigner dans les écoles privées et il m'a confié une classe d'élèves de 10-11 ans. Seconde chance, je suis tombé sur des élèves pédagogues. Très vite, ils m'ont posé les bonnes questions. Ils ont su créer avec moi des relations de confiance. Merci les élèves. Ils ont su repérer en moi ce qui allait faire de notre classe un lieu passionnant. En peu de temps, notre classe ne ressemblait pas du tout, plus du tout à ce qu'on avait l'habitude de voir en général dans des écoles. Et puis, une chance en entraînant une autre, M. Henri Moser me fit rencontrer Michael Huberman. À l'époque, c'était le président de la faculté des sciences de l'éducation à l'université de Genève. Il avait un projet d'école active à Genève. On était en 1969 et M. Moser était prêt à soutenir un tel projet. Michael Huberman m'a donc appris que ce qu'on faisait en classe avec mes élèves pouvait s'appeler de la pédagogie active. Moi, je dirais active intuitive, parce que la pédagogie active, c'est bien plus que ça. Et ce fut pour moi le démarrage d'une vraiment nouvelle et très, très grande aventure. Monsieur Moser m'a donc libéré. Il a accepté de cautionner notre école et de l'accompagner. Durant ses premières années, il est devenu un ami pour moi. Alors bon, ça a été 27 ans de travail à l'école active, de collaboration, d'ajustement d'expérience. Parallèlement à ma classe, la co-direction de l'école, en particulier avec Ariane Ferrière, qui était également co-fondatrice de Malanew, elle y restait, elle, jusqu'à sa retraite. Et je devais développer, parallèlement à l'école, avec M. Moser, Michael Huberman et une autre personne qui s'appelait Robert Acco, un centre d'échange pédagogique qui s'adressait à tous les enseignants des écoles privées comme des écoles publiques, et avec qui j'ai toujours collaboré très très positivement. J'ai toujours eu d'excellents contacts avec l'école publique. Je pouvais difficilement aussi dévaloriser le travail que faisait ma femme et qui était un travail qui allait vraiment dans le sens des pédagogies actives aussi. Le centre d'échange pédagogique qui s'est transformé petit à petit en un institut de formation pédagogique avec la présidente des écoles privées de l'époque, Mme Catherine Firmenich, et avec un collègue qui s'appelle Frédéric Mercier. Catherine Firmenich, de son côté, elle a créé une école bilingue de pédagogie active, la Découverte, qu'elle dirigeait, puis elle a passé la direction à son fils il y a 3 ans maintenant. Puis une étudiante de l'IFP est devenue diplômée et devait entrer ensuite en création également d'une école privée, création que j'ai accompagnée, puis j'ai assuré la direction pédagogique de cette école pour la toute première année. Les choses se sont passées comme ça, la passion restait, mais l'âge venant, il fallait quand même penser à la suite. Et encore une chance, j'ai pu progressivement, en quelques années, confier la responsabilité en fait, de l'Institut de formation pédagogique à une collègue du DIP qui prenait sa retraite, Martine Auvergne. Et voilà, l'ensemble continue. Alors il reste la très longue amitié et la collaboration avec l'école de la découverte, que je continue très modestement d'accompagner, ou plutôt je dirais même de suivre, dans le sens que c'est pour moi un lieu qui me fascine. La compétence scolaire des élèves, la réelle maîtrise d'une seconde langue, le français pour les enfants qui sont anglophones ou l'anglais pour les enfants qui sont francophones, et ça grâce à un bilinguisme par immersion. L'évaluation, le cadre de vie, le bonheur de ces élèves, ça me confirme que cette passion de l'enseignement, de l'éducation, qui est née chez moi d'une vraiment mauvaise expérience au départ, en tant qu'enfant, m'aura apporté d'énormes satisfactions. En fait, et s'éteindra jamais peut-être, enfin, en tous les cas, ne s'éteindra qu'en même temps que moi. Grâce à la passion, grâce à la chance, je peux dire merci ma vie. Mais, j'en ai peut-être pas fini non plus avec la passion, et peut-être même avec l'amour. Parce que finalement, j'ai eu encore une autre aventure, et c'est celle peut-être qui est en train d'être l'une de celles que je suis le plus assidûment possible. Dans le cadre du centre d'échange pédagogique, on avait un atelier de chant gospel, une journée, proposé par un formateur noir américain, et il a fait naître une nouvelle initiative. Avec une collègue, Mme Pamela Walsh, on a mis en place un chœur d'enfants, vous aviez suivi la chose, je me souviens en son temps, un chœur d'enfants des écoles privées, et on a développé une démarche qui consistait à donner, avec ce petit chœur d'enfants, un concert et lever des fonds pour d'autres enfants ailleurs dans le monde, des enfants qui en ont plus que besoin. C'était il y a plus de 15 ans. Rapidement, le projet a pris de l'ampleur, puis il y a une nouvelle personne qui est venue, Mme Isabelle Châtel, et elle a créé l'association Le Don du Cœur, mais il faut écrire C-H-O-E-U-R. Et elle organisa un concert avec plus de 400 enfants dans des salles prestigieuses comme le Victoria Hall. Avec l'aide de toutes ces classes, avec l'aide des professeurs, des directions d'école, avec le soutien de fondations, de donateurs privés, etc., Le Don du Cœur a pu, en 15 ans, rénover ou construire des écoles en Russie, l'Inde, le Cambodge, Kenya, à Madagascar, et tout récemment, là, au Mexique. Ces projets sont suivis sur le long terme, jusqu'à leur totale autonomie, qui en assure la pérennité. Puis, ce sont près de 2500 enfants à travers le monde qui ont pu profiter de cette action sur ces 15 dernières années. Alors j'ai la chance et le bonheur de faire vraiment modestement, je dirais, partie du comité de cette association, un comité qui travaille énormément, une association que j'admire, et j'essaye d'apporter une aide utile là aussi, si je peux, et l'accompagner, encore avec passion. Alors cette association, moi, elle me donne aussi l'occasion d'apporter la petite nuance que je voulais apporter au début par rapport à Merci la vie. C'est l'occasion de mesurer que dans tous les pays, particulièrement aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec les migrants qui débarquent, enfin pour ceux qui arrivent à traverser, qui arrivent au bout du voyage de traverser, qui débarquent en Grèce, à Lesbos, en Italie, à Malte, etc., qu'il n'est certainement pas du tout facile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de dire merci la vie. Et c'est pour ça que je préfère dire aujourd'hui merci ma vie. Merci de l'amour, que j'ai reçu au départ, merci de la chance que j'ai eue de naître ici, dans cette période, des passions que j'ai pu vivre, des amis que j'ai rencontrés, de me donner l'occasion de participer à mon tour modestement à aider là où je le peux. On sait bien qu'on reçoit nettement plus que ce qu'on donne en général. Et puis, j'aimerais aussi me tourner vers les jeunes, c'est-à-dire que je me rends compte qu'ils ont un sacré défi à relever, et puis j'aimerais leur dire merci aussi aux jeunes. Parce que ceux qui s'engagent dans toutes sortes de projets positifs pour le climat, la protection des plus faibles, pour le respect entre les personnes, contre les violences, le racisme, le sexisme. Tous ces chantiers sont des chantiers gigantesques, ils sont nombreux. Mais les jeunes qui s'engagent aussi sont nombreux. Ils sont pleins d'espoir, je les trouve admirables. Et grâce à eux, je garde totalement espoir en l'avenir, en tous les cas en leur avenir, vu mon âge. Alors merci ma vie, et en attendant de pouvoir dire merci la vie.
Jean-Claude Bresse, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. J'ai aussi envie de dire merci à la vie. Pourquoi ? Parce que la vie m'a fait vous croiser il y a maintenant plus de 30 ans.
Merci d'avoir m'avoir permis de participer, de donner ce témoignage. Moi, je pense que j'ai vraiment fait quelque chose de très modeste et que c'est le réseau d'amis, le réseau de personnes
qui fait tout le travail, quoi, et qui remplit la vie des uns et des autres, et qui remplit aussi bien que possible la dimension sociale qu'on peut que rêver.
Eh bien voilà, maintenant on est sur le réseau Radio Cité. À tout bientôt, je vous souhaite une excellente et très belle semaine. Au revoir.